Ouais. Notre deuxième séance, vous savez quel est le thème de ces séances. Il s'agit d'évoquer des écoles picturales entre les 16e et 18e siècles, européennes, à l'exclusion de la France, mais aussi de l'Italie, finalement, qu'on aborde souvent dans nos séances. Et la fois dernière, on a eu l'occasion d'entrer dans l'école hollandaise, à partir d'un peintre hollandais du XVIIe siècle qui s'appelle Jan Steen, et un peintre dont on a pu remarquer d'ailleurs que le travail était finalement très représentatif, même si très radical, hein, d'une certaine peinture hollandaise du XVIIe siècle. D'ailleurs, à la fin de la séance dernière, je vous ai montré toute une série d'œuvres d'artistes proches de Jan Steen, qui est peut-être... encore une fois, le plus jusqu'au boutiste dans ce type d'œuvre. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à tout à fait autre chose, mais on va travailler de la même manière. C'est-à-dire que je vais déjà vous montrer une série d'œuvres d'un artiste, puis après on essaiera de voir quel est cet artiste, d'où il vient, de quelle époque il est, etc. On regardera à nouveau les œuvres vues rapidement au départ pour les analyser un peu plus fort, et puis on terminera la séance en voyant des œuvres d'autres artistes, mais assez proches de celui qui aura été le héros de notre séance d'aujourd'hui. Voilà donc le thème et le plan du cours. Comme d'habitude, mais je ne vais pas les commenter, je vous montre et je vous rappelle nos petites règles. Vous les connaissez, je ne reviens pas dessus. Je vous propose que d'emblée, nous abordions la première partie, celle qui a pour but de vous montrer les œuvres que j'ai sélectionnées pour vous ce soir. Donc voilà les quelques œuvres que nous allons regarder d'un peu plus près et qui vont nous permettre d'entrer dans un autre monde pictural que celui de la fois dernière. Hein, je vous les montre un peu vite, mais n'ayez crainte, on va les voir plus lentement. Bien. D'abord, à travers ces œuvres que vous venez de voir, est-ce que vous avez une idée d'une période, d'un territoire, d'un lieu? Est-ce que, d'emblée, en voyant ce patchwork-là, vous pouvez dire, voilà, donc date, époque 18e, on est OK, c'est effectivement un peintre du 18e. Est-ce que vous avez une idée d'un territoire d'où provient le... Alors, j'entends plusieurs choses. Allemagne, Angleterre. Allemagne, Angleterre, c'est les deux. Flandre. Alors, Allemagne, Angleterre ou Flandre, c'est les trois domaines que j'entends. Il n'y en a pas d'autres, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Hein. Donc, Allemagne, Angleterre ou Flandre. Okay. Alors, pour vous départager, je vais vous montrer, ça vous donnera peut-être une idée, le portrait du peintre en question. Voilà le peintre qui a réalisé les œuvres que nous venons de voir. Est-ce que ça peut vous éclairer ou pas du tout? Allemagne. Donc un peintre allemand du 18e? Oui. Un peintre allemand du 18e. Bon. Alors... révélation, n'est-ce pas? Quel est le peintre en question? Un peintre anglais du 18e. Donc c'est l'Angleterre qui est à l'ordre du jour ce soir. Hein. Un peintre anglais du 18e. Vous connaissez, je pense, au moins de nom Thomas Gainsborough. Hein. Bien. Alors, peut-être deux mots très rapides pour vous préciser les grandes étapes de sa vie et de sa carrière. Hein. Je ne vais pas aller dans le détail, mais simplement pour qu'on voit grosso modo de qui il s'agit. D'abord, Gainsborough, qui est né en 1727 à Sudbury, et est originaire du Suffolk, qui est une région de l'est de l'Angleterre. C'était donc un provincial hein, que Gainsborough. Il est allé à Londres, il est arrivé à Londres en 1740. C'est donc là qu'il a commencé à fréquenter des ateliers et à travailler sur sa carrière artistique. Mais dès 48, quelques années plus tard, donc il retourne dans le Suffolk. Vous voyez que c'est un homme qui est assez attaché à sa province, pourrait-on dire. Une dizaine d'années plus tard, en 1759, Gainsborough, qui entre-temps s'est marié, qui a eu deux filles, Gainsborough va s'installer dans la ville de Bath. Bath, vous connaissez sans doute cette ville, au moins de nom, c'est une ville méridionale de l'Angleterre, qui est une ville où dès l'Antiquité il y avait des bains, d'où son nom, hein. Mais c'était également une ville de villégiature très aristocratique, hein. Donc il s'installe là et va fréquenter les cercles aristocratiques très élégants qui fréquentent cette ville, qui est donc une ville thermale, hein, décidément très, très à la mode dans cette Angleterre du milieu du XVIIIe siècle. Plus tard, en 1768, il va participer, être un des membres créateurs d'une institution très importante en Angleterre, qui est la Royal Academy. Ceux d'entre vous qui connaissent Londres connaissent sans doute la Royal Academy, qui est un bâtiment qui se trouve à côté de Piccadilly Circus. Et la Royal Academy, c'est, l'Académie française picturale de l'Angleterre. Hein. Il est d'ailleurs le seul peintre anglais de province à faire partie des artistes fondateurs de la Royal Academy, hein, dont vous voyez que c'est un artiste qui a une silhouette un peu singulière. Notons enfin qu'il va, en 1774, s'installer définitivement à Londres, où il décédera d'ailleurs, hein, et où il poursuivra sa carrière, une carrière bien, bien lancée d'ailleurs. Il va d'ailleurs connaître une certaine notoriété, jusqu'à être très reconnu par la famille royale elle-même, qui, vous savez, l'institution que vous connaissez dans cette Angleterre du temps. Hein. Notez quand même qu'en 1784, il va se brouiller avec la Royal Academy parce que dans une exposition organisée par la Royal Academy, on avait mis ses œuvres à un endroit dont il estime qu'elles ne sont pas bien éclairées. Enfin bref, donc il va bouder, si j'ose dire, ce qui ne va pas l'empêcher de poursuivre sa carrière en faisant lire chez lui des expositions, et il décédera à Londres en 1788 en étant assez reconnu. Même certains artistes qui pourtant lui étaient très opposés vont au moment de sa mort s'accorder à voir dans ce peintre un des peintres importants de l'Angleterre du temps. Voilà très très rapidement, hein, le silhouettage de ce personnage qui est Thomas Gainsborough. Bien. Alors, tout ça est bien joli, mais ça ne nous dit pas grand-chose sur son œuvre. Hein. On va donc revenir sur les tableaux que je vous ai montrés tout à l'heure, et maintenant il va s'agir de les analyser un peu plus avant et d'essayer de voir ce que l'on peut tirer des tableaux en question. Premier tableau que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce tableau-là, au niveau de ce qu'il représente? D'abord, on peut commencer par là, et puis après, de ce qu'il y a derrière la représentation. Qu'est-ce qu'il dit? Quelles sont les lignes de force de ce tableau-là? Un double. Alors, c'est un double portrait, effectivement.
Un couple guindé.
Pardon?
Un couple guindé.
Un couple un peu guindé, bon.
Un décor romantique.
Un décor romantique. Qu'est-ce que vous entendez par romantique?
C'est pour plus tard.
Il y a beaucoup d'arbres. Voilà. Romantique entre guillemets. Bon. Ok. Un décor champêtre. Sylvestre, pourrait même t'on dire, peut-être. Hein. Il y a des arbres. Hein. Bon. Ok. Donc, deux personnages. On a une idée d'ailleurs de la relation entre ces personnages. Mari et femme. Ok. Mari et femme. Frères et sœurs. Enfin, deux personnages d'une même famille, en tout cas. Bon. Ils se ressemblent, oui, il y a le même grand nez. Hein. Voilà. Donc, deux personnages un peu guindés qui posent dans un décor, entre guillemets romantique, très sylvestre, il y a des arbres. Très bien. Qu'est-ce que vous auriez d'autre à dire? Pardon?
Ils ne se regardent pas.
Ils ne se regardent pas, ils regardent qui? Nous. Nous, effectivement, ils ne se regardent pas. Ils regardent le spectateur, le peintre, qui réalise leur portrait. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre encore dans un tableau tel que celui-ci?
Il y a une belle perspective.
Une belle perspective, effectivement, dans le fond, là, on voit qu'il y a une trouée entre les arbres. Hein. C'est pas bouché, effectivement, un ciel. Oui, c'est ouvert sur le ciel. Une opposition entre l'homme et la femme, c'est deux figures assez contrastées, un homme sombre, une femme claire. Je crois qu'il ne faut y voir aucune interprétation, nous sommes bien d'accord. Hein.
Ce sont des costumes des barbares, de l'Isabarra en tout cas, parce qu'on ne se promène pas comme ça.
Alors, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a là deux personnages qui ont... vous les verriez appartenir à quel niveau de la société ? Voilà, deux aristocrates, alors peut-être on va mettre des guillemets, parce que l'aristocratie anglaise, c'est pas comme la française, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai, mais deux aristocrates, effectivement, hein, qui sont là dans la nature, mais avec des habits qui sont pas trop des habits que l'on utilise dans la nature, quoi.
Hein. On imagine le château juste derrière.
Voilà, c'est ça. Donc on imagine effectivement un château pas trop trop loin, mais en effet il y a une sorte de contraste, pourrait-on dire, avec le côté très agreste, sylvestre, campagnard, pour ne pas dire sauvage, du paysage, et le côté bien mythe de ces deux personnages, qui sont des membres de l'aristocratie locale. Ok. Et je sais pas, est-ce que ce tableau, au-delà de ce que vous disiez, c'est-à-dire une certaine rigidité, etc., est-ce que ça vous inspire d'autres choses? Est-ce que ça vous fait venir d'autres idées en vous? Pardon?
Ils sont maigres.
Ils sont maigres. Ah, ça. Ils sont pas bien gros, oui. Ouais. Et ils sont jeunes. Alors, je vais peut-être quand même vous révéler le titre du tableau. En fait, c'est la mère et le fils. Bon, ça ne pouvait pas forcément se deviner, il y a un air de famille, mais bon, voilà. Donc, ce n'est pas monsieur, madame, c'est madame et fiston. Bien. Alors, c'est effectivement des aristocrates, hein. Lady Lloyd. Enfin, très, très chic. Hein. Et ils posent dans le parc de leur propriété, dans ce folk. Le Suffolk, ça vous dit quelque chose ? Voilà, c'est la région d'origine. Donc on voit que notre artiste, hein, travaille déjà sur place. Hein. On l'a vu, c'est un provincial, hein, il est là sur place, donc il commence par travailler pour les personnes qui sont dans la région qui est la sienne.
Okay. Ah oui, mais il est très jeune quand il l'a peint.
Oui, alors voilà, c'est un tableau aussi de jeunesse. Hein. Ceci peut expliquer cela, vous avez raison. Hein. C'est-à-dire qu'on est là devant un tableau de jeunesse. Hein. Il est daté de 45-46, alors qu'il est né en 27. Ça fait quand même un jeune artiste. Hein. Et justement, cette jeunesse peut expliquer quoi qu'on a évoqué tout à l'heure ? Voilà, une certaine petite raideur qui ajoute, à mon avis d'ailleurs, une dimension... j'allais dire d'intérêt au tableau, hein. Cette espèce de raideur, un peu british aussi, hein. Mais dans le bon sens du terme. Hein.
On a l'impression d'un buste étiré.
Oui, oui, il y a un côté, oui, elle est quand même très droite, hein. Alors, elle est sans doute un corset, hein, mais enfin quand même, il y a là, effectivement, un côté un peu rigide, une petite rigidité qui peut-être vient aussi de la jeunesse des personnages, du peintre, pardon. Je vais vous montrer un autre tableau tout à fait de la même période. Très célèbre. Hein. Ah, vous connaissez ça, un des grands chefs-d'œuvre de Gainsborough, tôt. Hein. Alors là aussi, qu'est-ce que vous auriez à dire et qu'est-ce que vous signale ? Qu'est-ce qui va venir vers vous, ce tableau-là ?
La facture est des valeurs
très différentes.
Oui. La lumière.
Le couple pose. Il ne posait pas dans le tableau d'avant ?
Si, mais.
Si. Là, c'est un peu plus posé encore, oui.
Et bon. dans une nature agricole, plutôt que...
Oui, la nature est pas cette fois sylvestre, mais plutôt agricole. Ce sont des champs, des prairies.
Et alors, et le travail des champs et pas le décor.
Oui.
Et puis, c'est la chasse en même temps.
Lui, il est en costume de
chasse. Oui, il est en costume de chasse. Non. Non, il y a toujours cette dichotomie que vous évoquiez déjà tout à l'heure, hein. Entre un paysage campagnard et des costumes, surtout celui de la femme, qui ne sont pas trop. Hein.
Qu'est-ce que c'est que cette matmonde à droite de la femme ?
Matmonde. C'est un arbre.
C'est un arbre. Ça, c'est un arbre. Il est un peu rond, mais c'est un arbre. Ah, pardon ? Oui, ouais, voilà, c'est-à-dire que, à vrai dire, c'est assez curieux ce qu'il y a. Il y a, dans un tableau tel que celui-ci, à la fois une certaine décontraction. Vous la voyez dans quoi, la décontraction ? Voilà, L'homme qui est là, tranquillement, contre son arbre, les jambes croisées, c'est très cool, n'est-ce pas, hein? Là, on peut le dire, c'est vraiment très cool.
C'est très court, dans la nature.
Très court, effectivement. Et oui, vous disiez aussi dans la nature. Ouais. Donc, il y a quelques... C'est assez curieux, parce que, comme vous le voyez, il y a à la fois une certaine décontraction, hein, qui s'instille même dans le paysage, d'une certaine manière. Hein. Donc, il y a un côté cool, décidément. Et puis, en même temps, on sent bien qu'on est quand même chez des gens qui doivent être assez convenables. Hein. Après tout, avoir ce genre de robe-là, c'est pas une ouvrière de londonienne qui va s'habiller comme ça. Hein. On est donc là, devant un tableau qui montre une sorte de désinvolture aristocratique. Hein. On est chez des gens d'un haut niveau social, mais qui en même temps affichent une sorte de décontraction sophistiquée, si vous voulez. Hein. Hein, voilà, c'est ça. Il y a les deux choses en même temps. Hein. Ça, d'ailleurs, c'est très spécifiquement anglais. Hein. Ce côté, cette décontraction altière, en quelque sorte, elle est vraiment très, très typique.
Elle
brode,
elle travaille.
Eh bien, je ne sais pas très bien, je vous dirais. Oui, c'est peut-être ça. Peut-être, oui. Peut-être. Où elle dessine, j'arrive pas à voir. Elle a quelque chose, mais je ne sais pas.
Elle écrit, peut-être.
C'est pas une plume. Oui, peut-être qu'elle écrit, qu'elle dessine. J'avoue que je ne sais pas, j'arrive pas à voir. Il y a une dimension que vous n'avez pas vue aussi. Un détail qui me paraît intéressant. Le chien. Il y a un chien. Hein. On est en Angleterre. Hein. Pour les Anglais, les chiens, c'est sacré. Hein. Donc il y a un chien. Le chien, il fait partie de la famille. Il est là. Voilà. C'est très, très important, le chien.
Mais il y a quelque chose dans la composition aussi qui est curieux.
Oui.
Parce que le paysage prend presque autant de place que le personnage.
Et ça veut dire quoi, ça? Ça l'intéresse, oui.
Les gerbes de blé, là.
Oui. Les gerbes de blé à droite, oui. Mais effectivement, le paysage est extrêmement présent. C'est-à-dire qu'on a l'impression finalement que les personnages sont jetés à gauche. Un antiquaire aurait pu couper ça en deux et vendre le paysage seul. Hein. Ça s'est fait, hein, vous le savez.
Il y a aussi un contraste entre le ciel qui est très menaçant et le premier plan qui est très...
Oui, c'est vrai. Une espèce de force comme ça. Oui, c'est vrai. C'est un tableau où les contrastes sont assez nombreux entre la désinvolture des personnages et leur côté un peu altier, entre des champs très paisibles et agréables, en même temps un ciel un peu orageux, entre des personnages à gauche, une nature à droite. Effectivement, il y a une dimension un peu dualiste.
On a l'impression qu'il s'est libéré du classicisme des arbres, du paysage... dans l'autre, et qu'il est plus libre ici.
Oui, il y a une espèce de liberté, et cette liberté-là, vous la voyez par exemple dans quoi, justement?
Dans ce premier plan, là,
ouais.
de l'herbe.
Oui.
C'est très moderne, cette façon de peindre.
Et puis les gerbes, effectivement, les gerbes de blé, bon...
Aussi, dans tout, y compris les arbres.
Oui, oui.
C'est
beaucoup
moins classique.
Oui, oui, il y a une dimension qu'on pourrait qualifier de quoi dans ce tableau? Patrimonial? Je ne sais pas si je dirais patrimonial. Qu'est-ce que vous entendez par patrimonial? Ah, patrimonial, le patrimoine, le territoire, quoi. D'accord. Ah oui, je comprends ce que vous dites. Tiens, en gros, on montre son territoire. Ah d'accord, oui. Je comprends les patrimoniales dans le sens le patrimoine historique ou autre. D'accord, c'est ça. Oui, donc quelque part, on exhibe son patrimoine territorial. Hein, c'est cette idée-là. Oui, sans doute, c'est juste.
C'est plus moderne, en tout cas, parce que c'est plus moderne, parce qu'on voit la vie de la campagne.
Oui, absolument.
C'est une campagne vivante.
Et je pense qu'il n'y a pas un mot qui pourrait, par rapport à cette omniprésence de la campagne qui est là, décrite, finalement, il y a des gerbes de blé, c'est pas vaguement édulcoré, elles sont là, c'est des vrais, les observer. Qu'est-ce qu'on pourrait, un mot peut-être pour qualifier... Voilà, un certain réalisme. Un certain réalisme, effectivement, dans cette célébration du territoire, du patrimoine, de la réalité de la nature.
Hein. Et le banc est un peu insolite dans cette nature.
Oui, voilà un banc très, très court de château en plein milieu, près d'un champ.
Château. Là, c'est dans la...
Non, le château n'est pas là, il est peut-être plus à gauche. On voit peut-être des restes, des éléments de commun, là. Hein. Il y a peut-être un château par ici. Mais vous savez que la nature anglaise, enfin les jardins anglais, aiment beaucoup, comment dire, ménager une sorte de transition très douce entre le jardin lui-même et la nature. Hein. Et cette idée de pas avoir un jardin, puis un mur, et puis la nature, qui est très française, hein, et pas du tout anglaise. Chez les Anglais, on va très très doucement d'un jardin un peu organisé à une nature. On s'y prend très bien, on commence le jardin, on finit la nature. Hein.
C'est un parc avec...
On peut penser qu'à gauche, on est fermé dans le parc, qu'à droite, c'est la nature. On est peut-être là, dans ce que quelquefois, d'ailleurs, on appelle en Angleterre le ha-ha, c'est-à-dire cette partie qui, souvent, d'ailleurs, est creusée par un fossé hein, et qui sépare l'un de l'autre. Hein. Et on appelle ça le ha-ha parce que quand on arrive sur le fossé qu'il faut le franchir, oh, il y a un fossé, c'est le ha-ha, on fait ha-ha. Hein. Regardez dans le dictionnaire, hein. Je vous le dis parce qu'au Scrabble, voilà un mot que vous pouvez très bien utiliser. Un mot très très pratique. Donc foncez sur votre petit Robert et utilisez ça au premier Scrabble quand vous avez trop de 1 et vous ne savez pas quoi faire. Bien. Voilà, alors, en tout cas, ce que vous nous avez noté tous, on va avancer, c'est la prégnance de la nature, de cette nature très, très puissante. Je vous montre par parenthèse un autre tableau de cette série, c'est-à-dire ces portraits dans les paysages, portraits où la nature est très présente, où les personnages sont des aristocrates qui conversent dans une nature qui est ordonnée, etc., mais enfin quand même très très sauvage, très réaliste. Je vous montre ce tableau-là qui est au Louvre. Hein. Le Louvre n'a pas tant de tableaux anglais, alors quand on en a, autant les montrer, et savoir à quoi on peut se rapprocher. Donc voilà l'un des deux tableaux de Gainsborough du Louvre, qui appartient à ces tableaux très tôt, où on sent toujours derrière un peu ce même péché de jeunesse, hein, c'est une sorte de rigidité un peu guindée, mais qui se délaye petit à petit, hein, avec décidément la nature et des aristocrates qui, à l'intérieur, conversent.
C'est une nature arrangée. Hein.
C'est une nature arrangée. C'est une nature arrangée, mais par rapport à certains tableaux de nature arrangée du temps, elle l'est peut-être moins dans le détail. Alors vous remarquez tout à l'heure par rapport à tel autre tableau que par exemple les arbres, ce n'est pas des arbres de convention. D'ailleurs, Gainsborough amenait dans son atelier des rameaux d'arbres qu'il voulait vraiment peindre. Cette idée du réalisme dont on parlait tout à l'heure, elle est très importante chez lui dès le départ. Hein. Alors évidemment, on est quand même au 18e, hein. Courbet n'est pas encore là. Hein. Mais on a, dans l'Angleterre du 18e siècle, déjà, chez des artistes comme ça, une volonté réaliste, j'allais presque dire avant l'heure. Vous savez, le réalisme, c'est Courbet, l'enterrement ornant, 1850. Bien. Mais avant ça, dans certains territoires européens, dont l'Angleterre, cette dimension réaliste, qui n'est pas celle que connaîtra le 19e, hein, commence à poindre. Gainsborough est un de ceux-là. Alors bien sûr, on est au 18e, on met volontiers un petit temple ou quelques monuments, parce qu'on est au 18e, on ne va pas non plus pour les étapes. Hein, mais on est quand même dans une dimension réaliste. Je voulais vous montrer le dernier de la série, je crois que c'est le dernier du moins, celui-ci. La différence avec les autres, c'est quoi? Voilà, là, il y a carrément toute la famille, papa, maman et les deux filles. Hein, voilà. Si je vous montre ce tableau, vous voyez ces gens qui sont en train de regarder le peintre, toujours avec ce qu'on a vu, hein, la prégnance de la nature, le contraste, le ciel est nuageux, il va peut-être y avoir un orage, ou il va bientôt pleuvoir, il pleut tout le temps en Angleterre. De toute façon. Voilà. Donc il y a ce côté, cette dichotomie que vous évoquiez, et on voit ces personnages que, là ils se regardent, mais il y a un instant ils étaient en train de parler entre eux. Hein, ce qui fait qu'on a donné à ces peintures qui représentent des personnages, souvent une famille, on a donné à ces tableaux, dont Gainsborough est un peu le champion, un nom particulier, ça peut être lequel? Ces personnages qui conversent là, comment est-ce qu'on pourrait les appeler ces tableaux qui à chaque fois représentent des gens qui sont là ensemble, il ne manque plus que le thé si j'ose dire, hein, et qui aimablement, non pas dans un salon mais dans la nature, conversent ensemble. Voilà, conversation quelque chose. On appelle ça des conversation pieces. Hein. Les conversation pieces, les pièces de conversation, pièces au sens tableau, hein. Les tableaux qui représentent des conversations, des conversation pieces, c'est quelque chose qui est absolument typique de la peinture anglaise. Et Gainsborough, on est sans doute le champion, sont des tableaux qui donc montrent des gens dans la nature, comme ça, très élégant, dans une nature un peu sauvage, réaliste, hein, et qui converse tranquillement. Le peintre, j'allais dire comme un photographe, hein, les surprend en quelques instants, le demande de regarder l'objectif, de sourire un peu, pas trop. On est quand même des aristocrates, on a son temps à soi. Hein. Et donc, on prend la photo, mais voilà, ils vont dans un instant rediscuter très aimablement, n'est-ce pas, avant de rentrer dans leur château voisin.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on se promène dans la nature, on se fait peindre dans la nature, alors que la tenue est devenue de salon.
Absolument, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Mais c'est bien un contraste absolument voulu. Hein. D'abord, il n'est pas interdit de penser que ces personnes aimaient aller dehors comme ça. Vous savez, cette merveilleuse truculence que seuls les Anglais savent avoir, hein, qui permet à quelqu'un d'admirablement vêtu d'aller se crotter dans une allée, hein, ça c'est très anglais, quoi. Et finalement, on a là quelque chose qui correspond aussi à une réalité. Hein. C'est-à-dire que cette espèce de contact avec une nature, même si on est bien habillé, n'est-ce pas, est quelque chose qui ne gênera pas du tout un aristocrate britannique.
Hein. Ils n'ont peut-être pas des vêtements destinés aux fantasmes de la nature, à part les chaussures.
Alors, il est vrai qu'après tout, ces aristocrates sont plus amenés à être dans des salons qu'à trimballer des bottes de foin. Hein, ça, c'est vrai. Hein. Ils peuvent avoir, évidemment, comme le chasseur, des vêtements plus adaptés à la nature, mais qui auront toujours un certain chic, si vous voulez. Hein. Il faut quand même savoir qu'on est là dans la haute société britannique et anglaise du temps. Hein. Et donc cette espèce de volonté du paraître, qui n'est pas d'ailleurs sans venir de la France. Hein. Et quelque chose qui est extrêmement à la mode, mais ce n'est pas parce qu'on est bien habillé qu'on ne doit pas aller au bout du parc pour aller regarder le paysage alentour, même si la pluie menace.
Je trouve que ça donne une certaine douceur.
Ah oui, il y a... Mais je crois que c'est aussi l'intérêt de ce tableau, il y a douceur et âpreté à la fois.
Oui, mais
douceur parce qu'en effet, c'est très doux, vous avez raison.
Et douceur des couleurs.
Des couleurs aussi. Un peu d'âpreté aussi parce que comme vous le disiez tout à l'heure, un, le paysage est très réaliste. Deux, on se demande s'il ne va pas flotter dans deux minutes.
Donc, c'est orageux.
C'est orageux.
Est-ce qu'ils ont posé en atelier ou
Peut-être les deux. Peut-être les deux. Ce genre de choses, évidemment, il ne faut pas imaginer Gainsborough faisant tout le tableau en extérieur. Donc on peut effectivement imaginer qu'avec la famille, n'est-ce pas, il choisit un lieu, il fait une première esquisse et après il y a des poses en atelier pour vraiment présenter les personnages. Hein. Donc il y a, vous avez raison, une dimension de convention. Hein. On n'est pas là forcément dans une photo d'une réalité, hein, absolument. Mais n'empêche que ça devient une réalité parce que le tableau est fait. Et qu'il présente ça, et qu'il présente ce contraste que vous avez bien senti dans ces conversations pieces dont Gainsborough est le champion, mais qui n'est pas le seul à avoir réalisé. Alors on va aller un petit peu plus loin. Je vous montre le deuxième tableau que je vous ai montré tout à l'heure et que voilà.
Nature.
Qu'est-ce que vous suggère un tableau tel que celui-ci ? Pardon ? Presque du corot. Du poussin, du constable, ce serait d'ailleurs plutôt l'inverse, constable qui peut-être rappellerait Gainsborough, hein, puisque constable est plus tardif. Hein. Oui, vous disiez, pardon, Turner. Alors Turner, il est vrai, alors oui, non mais Turner c'est pareil, il est plus tardif, hein, mais Turner a beaucoup regardé du côté de gens comme Gainsborough, effectivement. Hein. Donc on peut faire un rapprochement avec Turner dans le sens inverse, hein, mais évidemment Turner a beaucoup regardé ce genre de choses, c'est vrai. Une nature tourmentée, une nature romantique, on peut dire ça. Romantique avant la lettre, hein, le romantisme c'est quand ? Fin 18 et surtout, voilà, surtout début 19e, hein, voilà. Voilà. Là, on est, voilà, là, ce serait une sorte de tableau pré-romantique, notamment du fait de ce que vous avez remarqué, c'est-à-dire ces nuages, hein, très forts, qui sont là, ce ciel menaçant.
Des personnages complètement perdus.
Oui, des personnages perdus dans la nature, noyés dans la nature, ça, c'est très, très romantique. Hein. Il y a une petite bicoque à droite qu'on voit à peine, hein. Ouais. Un côté un peu sfumato, oui, flou, effectivement. Ah, j'ai entendu quelque chose d'autre par là.
J'ai dit que ça me faisait penser à la peinture hollandaise.
Ça fait beaucoup penser à la peinture hollandaise. Beaucoup pensaient à la peinture hollandaise ou flamande d'ailleurs, hein. C'est-à-dire la peinture en gros nordique, quoi, hein. Les paysages flamands et hollandais. Vous avez raison, en fait, ce que Gainsborough a regardé pour s'inspirer un peu avant de faire des choses comme ça, c'est effectivement les flamands, les hollandais, les peintres de nature, hein, de paysages flamands et hollandais. Vous en connaissez quelques-uns ? Pardon ? J'ai entendu un nom et c'était bien. Ruysdael, hein, Ruysdael, effectivement. Hein. Ruysdael est un artiste paysagiste du XVIIe siècle que Gainsborough a beaucoup, beaucoup regardé. Hein. Et donc on a là, effectivement, l'écho chez Gainsborough de ces artistes, de ces paysagistes flamands ou hollandais du XVIIe siècle. Et en effet, ce qui est amusant, c'est que Gainsborough lui-même, ensuite, va, inspirer des artistes, notamment britanniques postérieurs, comme Constable ou Turner, par exemple. Hein. Alors, on va regarder quelques autres tableaux. Je vous passe quand même la légende de ce tableau-là. Hein. Oh, pardon. Voilà. La légende du tableau ici. Paysage du Suffolk, hein. Sa région, décidément. Et ce tableau-là, autre paysage de Gainsborough. Vous en diriez quoi ?
Le ciel est moins tourmenté.
Ciel moins pudrementé, mais important, il tient de la place, oui.
Enfin, l'eau va se renverser, non ?
Pardon ?
J'ai l'impression que l'eau va...
Que l'eau est plus haute que la terre.
Oui.
Oh, c'est peut-être un effet d'optique. Pardon ?
C'est beaucoup plus calme.
Là, c'est plus calme, oui. Oui.
Oh, si, il est
plus réaliste, moins réaliste.
Si.
Moins. Bah, oui. C'est peut-être aussi que ça n'est pas le même. Là, on est dans un paysage de bord de mer. La mer, c'est de l'eau plate. Hein. Et voilà, donc c'est pas tout à fait pareil qu'un paysage de ravin avec des arbres. Quoi. Hein.
Et là, c'est un paysage de mer sans vent, le plateau.
Oui, il est un peu à. Je me suis fait sur place. Alors, il y a peut-être une dimension un peu idéalisée. Vous voyez ça, par exemple, dans quels éléments ?
L'ensemble
du
traitement.
Alors, il y a quelques éléments un peu idéalisés qui sont même un peu des poncifs du paysage. Moi, j'en vois au moins. Hein.
L'arbre mort.
L'arbre mort à droite. Hein. L'arbre mort à droite, ça, c'est vraiment typique poncif paysage hollandais-flamand du 17e. Paf, on met un arbre mort à droite ou à gauche, ça vous cale la composition d'un côté, ça marche toujours, hein, ça fait toujours son petit effet.
Le chemin en diagonale, ça...
Alors voilà, la manière dont la composition est faite répond à, je dirais, une certaine mise en place traditionnelle du paysage. par contre, je ne suis pas sûr que, que ce tableau soit si idéalisé que ça. Hein. Après tout, aller au bord de la mer, hein, notamment de ces territoires nordiques, hein, vous avez de l'eau, un grand ciel, tout gris. Hein. Voilà, je crois que c'est quand même assez proche d'une certaine réalité. Hein. Alors, bien sûr, il y a des éléments de convention, mais il y a quand même aussi... Par exemple, le bateau, hein, c'est pas un bateau d'opérette, on sent qu'il a regardé un vrai bateau. Quoi. Donc, bien sûr, des éléments de convention, mais on est quand même là, devant un tableau qui a une dimension, sinon de réalisme, du moins de vérité. Et dans un tableau tel que celui-ci, qu'est-ce que vous diriez ?
C'est beaucoup plus vivant, il y a de la vie.
Plus vivant, il y a de la vie, oui. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs ?
Mais,
promenade de cavalier.
Tous les personnages s'enfoncent.
Oui, ils s'en vont là. Ça peut être quoi ? Qu'est-ce qui... Ces personnages, c'est cavalier ou cavalière, hein ? Il y a une dame. Hein ? À votre avis, c'est quel genre de personne ? Des aristos ? Pas sûr. La dame.
La dame, quand même, c'est la dame.
Alors, moi, je vois de plus près que vous. Hein. Moi, quand je la vois, non, je crois vraiment pas que ce n'est. Bon, elle a une robe, mais il n'y a pas que les aristos qui ont des robes. Hein. Hein. Elle a un fichu sur la tête, une coiffe.
Elle vient de la foi.
Alors voilà, c'est ça. C'est effectivement des gens qui reviennent du marché, qui reviennent de la foire. Hein. Ça s'appelle d'ailleurs, je crois, retour du marché, quelque chose comme ça. Le retour du marché, enfin c'est la traduction. Ah. Le retour du marché. Hein. Donc effectivement, le paysage, il est animé d'une scène. On met une scène de gens dans le paysage. Parenthèse, on retrouve le même poncif, paf, de l'arbre mort. Décidément, ça marche toujours. Mais en même temps, dans ce paysage qui a comme ça un côté équilibré entre réalisme d'un côté et puis convention de l'autre, hein, on met une scène de genre, plus ou moins observée, avec une dame qui a encore son panier. Hein, elle a vendu des choses, elle en a peut-être acheté d'autres. En tout cas, elle revient avec une partie des denrées qu'elle a peut-être acquis sur le marché.
Oui, très bien.
Il y a des vaches à droite qui pataugent dans un margouillis. Voilà, ça c'est un autre tableau du même genre, hein, qui représente, à nouveau, vous le voyez, cette fois, le char des moissonneurs, moissonneurs et moissonneuses d'ailleurs, hein, visiblement la journée est finie, on revient au village, un peu fatigué, hein, on a amené tout le monde pour la journée, hein, parce que de toute façon, pour les moissons, il n'y a pas le choix, il y a les enfants.
Et on s'en va aussi.
Et on s'en va, oui, oui. Donc... Je crois que c'est à peu près le même genre de choses. Hein. Là aussi, du réalisme avec les sillons des roues, par exemple. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a, un peu ce double langage-là. Hein. OK. Alors, on va avancer un peu.
Alors, on revient dans le conventionnel.
On revient dans le conventionnel.
On est proche de bateau.
Oui, c'est vrai. Alors, vous avez raison. On est là dans quelque chose qui fait beaucoup penser à la peinture qu'on appelle la peinture galante, française. Hein. Après tout, Watteau, plutôt Watteau, c'est quelqu'un qui a vécu, je vous le rappelle, au tout début du XVIIIe siècle. Hein. Donc quelqu'un comme Gainsborough a pu tout à fait voir des œuvres de Watteau, ou des gravures d'après Watteau. Hein. Donc c'est tout à fait faisable. Donc on est là dans quelque chose qui sent un peu cette paternité-là. Et qu'est-ce qu'on voit finalement ?
Apparemment que des femmes.
Il y a beaucoup de femmes. Il y a quand même quelques messieurs, mais très discrets, comme sont toujours les messieurs, d'ailleurs.
Oh, c'est la promenade.
C'est la promenade. Oui, il y a des chiens. Il y a des dames en blanc, oui. Non, elles ne dansent pas, elles se promènent. Elles se promènent où ? C'est quel genre de personnes ? Voilà, là, c'est vraiment des aristocrates. Hein. On quitte nos paysannes qui viennent du marché. Hein. On est avec des aristocrates. Et qui font quoi ? Qui se promènent dans un parc. Et elles ne font que se promener.
En conversant.
Elles discutent. Elles parlent. Elles rencontrent éventuellement des gens. Elles se montrent. Oui, la dimension se montrer est importante. Hein. On est dans quel genre de parc, peut-être ? Oui, c'est ça. On est en effet dans un parc, un de ces parcs qui a été aménagé, l'Angleterre avait, le secret, ce genre de choses, hein, aménagé justement, vous savez qu'à Londres, il y a un parc comme ça, hein, voilà, par exemple, hein, là c'est St. James Park. Voilà, des parcs aménagés avec des allées qui sont là évidemment pour permettre à ces gens qui viennent se promener, de se montrer, de papoter, de se découvrir, de se croiser, enfin voilà.
Mais c'est en fin de vie, ça, presque.
Et de se reposer éventuellement, on s'assied pour repartir.
C'est à la fin de sa vie, apparemment.
Pardon ?
Presque à la fin de sa vie.
Oui, c'est tardif, ça. Oui. C'est la période londonienne.
Les arbres sont très lumineux.
Oui, oui, oui.
Mais qui pouvait être intéressé par la nature ?
Bon, ceux qui ont toujours resté à Gainsborough, c'est-à-dire les aristocrates, hein. L'aristocratie et la haute bourgeoisie. Quand je dis aristocratie, ça concerne également la grande bourgeoisie, hein, qui aimait beaucoup ce genre de choses. Non, mais c'est une ambiance générale. On parlait de Watteau tout à l'heure. Hein. Voilà, donc c'est le même genre de public et de personnes que celle qui peut collectionner Watteau, par exemple.
Et il y a un arbre mort.
Et il y a un arbre mort, à gauche. Ah, il y en a deux. Abondance de biens. Voilà, donc on voit des élégantes qui se promènent sur le mont à St. James Park. Voilà.
À gauche, n'y a-t-il pas une petite scène?
Oh, il y a une dame avec sa copine. Oh, elle peut flirter avec sa copine, hein. Moi, je ne sais pas. Hein. Mais oui, non, il y a des. Non. Ça reste assez. Voilà. On se promène. Hein. On se promène. Alors, maintenant qu'on a vu toute une série de paysages, passons à un paysage. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Un incendie ?
Un incendie ?
Un feu
vert. Un coucher de soleil. C'est très curieux. Pardon, vous disiez ? Un vitrail.
C'est pas un tableau ?
Quelque chose d'incandescent. Pardon ?
C'est un tableau ?
Est-ce un tableau ? Est-ce un vase ? Un matériau différent. Ce sera en quel matériau ?
Vert.
On a parlé de vitrail tout à l'heure. Hein. Donc on a du verre, mais du verre... qu'est-ce qui serait passé sur le verre ? Du verre peint. Donc on aurait du verre peint. Une peinture sur verre. Ça s'appelle comment, une peinture sur verre ?
Peinture sur verre.
Alors, peinture sur verre, souvent on utilise un mot.
Alors, le mot églomisé, peut-être.
Il peut y avoir.
Mais ce n'est pas tout à fait ça.
Il y en a un autre.
Églomisé, c'est sur du.
Parce que souvent, cette peinture demande à être un peu consolidée. Parce qu'évidemment, sur du verre, peindre, la peinture peut vite s'écailler. On appelle ça souvent un fixé sous verre.
Ah oui.
Alors, on aurait donc là ce qu'on appelle un fixé, c'est-à-dire une peinture sur verre. Hein, plutôt sous verre, parce que généralement, enfin, il y a toujours un dessus et un dessous. Oui. Alors, pourquoi avoir fait une peinture sous verre ou sur verre ?
C'est ça.
Quelle est la raison ? C'est ça.
On met une bougie derrière.
On met une bougie derrière.
Oui,
là, il y en a une.
Illumination.
Illumination. Et quel est l'intérêt de faire une peinture sur verre avec une illumination derrière ?
C'est beau.
C'est beau, ok.
On fait une projection.
Ah, on fait une projection. C'est-à-dire ?
Parce que ça va se refléter.
Ça envoie l'image, ça l'envoie où ? Ça va se refléter.
Sur le mur,
sur un mur.
Si on bouge la bougie, c'est un bon mur.
Voilà, on peut bouger la bougie, absolument. Donc, on aurait là une peinture sur verre réalisée pour faire des projections. Je résume bien votre. Non.
Alors, pas un décor de théâtre ?
Décor de théâtre ? Est-ce que ça se reflète ?
Oui, sur une glace.
Sur une glace ? C'est curieux. Encore une fois, ce que vous avez tous dit là jusqu'à maintenant, c'est qu'il s'agit d'une peinture sur verre, que l'on peut éclairer à l'arrière et qui permet de faire des projections. Ça vous passe, ça ? Ouais. Je suis un enthousiasme moyen là. Bah, c'est dommage parce que c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez là une peinture sur verre faite par Gainsborough qui nous montre effectivement un paysage et avec derrière une source lumineuse qui vient éclairer le paysage et qui éventuellement peut projeter l'image sur le mur.
On faisait des petits théâtres comme ça.
Voilà, c'est ça. On est dans la ville de l'invention de la photographie. Hein. C'est la lanterne magique avant l'heure.
Et là, il est jeune encore.
L'intérêt aussi de ce genre de choses, c'est que il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez, selon les lumières que vous mettez, l'endroit où vous les mettez, la boîte dans laquelle vous faites les projections, vous pouvez aussi obtenir ça. Ça, c'est la même vue, on sent qu'elle est retournée, hein, mais avec un autre type d'éclairage. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus le crépuscule, etc., mais vous avez la journée. Regardez, je vous remontre le truc d'avant. Hein. Bon, là, encore une fois, c'est pas dans le même sens. Hein, hein, mais je vous remonte la suivante. C'est la même chose dans l'autre sens, mais couleur du jour, si j'ose dire. Hein. Donc, vous voyez que c'est très intéressant parce que ça permet de faire des tas de choses. Hein. Alors, il y en a d'autres. Hein. Je vais d'ailleurs vous montrer la boîte qui avait été conçue par Gainsborough pour ses projections. Si vous allez au V&A, c'est-à-dire au Victoria and Albert Museum à Londres, vous verrez la boîte conçue par Gainsborough, qui l'a fait réaliser, pour ses projections. Alors, ne me demandez pas précisément comment ça marche. Hein. Bon. Enfin, en gros, on met la vue, on met des bougies, ça projette. Voilà. Hein. Voilà. On va dire en gros que c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Cette histoire d'un peintre qui fait réaliser un bouticage comme ça pour envoyer des vues sur le mur.
Début de la photo.
Voilà, alors effectivement, c'est quelque chose qui évoque le début de la photographie. Et alors, des prémices, parce que c'est quand même pas encore la photo, hein, mais enfin, on va dire des prémices, quelque part, de la photographie. Ouais. Voilà, ça fait penser à la lanterne magique. Et par rapport à ce personnage qu'est Gainsborough, qu'est-ce que ça vous suggère ?
Jeu de société.
Pardon ?
Jeu de société.
Alors, jeu de société, évidemment, parce que tout ça se fait, quelqu'un disait un peu tout à l'heure, hein, se fait devant une société, on aime beaucoup ça. Hein. On réunit bah, les gens qui, il y a deux minutes, se promenaient à St. James Park. Hein. On les réunit, on leur fait une petite projection. Ça, ça plaît beaucoup dans les salons du temps. Hein. C'est quand même très, très nouveau. Hein. Donc, Gainsborough, il fait partie de ce petit monde-là. Hein. Mais ça veut dire quoi également par rapport à lui, justement ?
Un chercheur.
Un chercheur. Il y a une dimension de chercheur. C'est-à-dire qu'on est là, chez quelqu'un qui, vous le voyez, travaille à faire du nouveau. Il ne s'assied pas sur simplement la peinture traditionnelle et puis basta. Il va comme ça vouloir aller dans des directions un peu spéciales. Il n'est pas le seul. Hein. Enfin, il est un de ceux qui a travaillé là-dessus. Et cette showbox le montre bien. Je vous montre quelques autres vues hein, sur verre. Bon, elle est une autre. Hein. Ça nous rappelle sur verre certains des paysages de tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors, sur verre, c'est plus coton que pas sur verre. Hein. Voilà. Donc, c'est, si vous voyez, ces paysages qui sont assez tôt hein, sont des paysages qui ont moins de brio que les paysages sur toile. Mais enfin, bon, on n'est quand même pas très très loin. Voilà, voilà encore un de ces paysages sur verre.
Il en a fait beaucoup, des trucs comme ça ?
Ah, il y en a un certain nombre. Eh ouais. Je ne peux pas vous dire le nombre. Hein. Mais au V&A, il y en a au moins une petite dizaine d'exposés.
Et ils sont exposés comment ? Alors, ils sont éclairés ?
Alors, ils sont éclairés. Enfin, moi, quand je les ai vus il y a 15 ans, peut-être, hein, ils étaient effectivement éclairés par derrière. Voilà, de ce que ça donne. Il y a la boîte, et puis il y a une espèce de mur, si vous voulez, avec des diapos. Enfin, mais sauf que les diapos, c'est les peintures de Gainsborough.
C'est grand ?
Non, c'est pas très grand. C'est, ça fait quoi ? Ça fait ça. Ça fait quoi, 25 de large ? Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, une plaque. Voilà, donc ça, c'est une chose assez, assez marrante. On voit là encore une dernière. Hein. Avec toujours ces paysages, bon, on a parlé du paysage chez lui, on ne va pas revenir, hein, mais bon.
Ça donne de la profondeur et de la lumière.
Ouais. Puis ça permet de jouer sur la lumière, et ça fait partie de ces jeux artistiques en société. Je voulais vous montrer ça. Là, vous avez une œuvre d'un artiste dont on a parlé l'année dernière. Certains d'entre vous s'en rappellent peut-être.
Oui.
Au moment, notamment, on a parlé de l'art du portrait. On a parlé de ce monsieur qui s'appelle Louis Carogis, mais qu'on surnomme Carmontel. Est-ce que ça dit quelque chose à certains d'entre vous ? Carmontel a fait souvent des personnages qui sont présentés, des portraits, toujours présentés de profil. J'avais dû vous montrer le portrait de Jean-Philippe Rameau, notamment l'année dernière, pour ceux qui étaient là au truc sur le portrait. Hein, voilà. Eh bien, Carmontel, il a réalisé, plus ou moins à la même période, hein, mais en France, des choses équivalentes. Le musée du Louvre vient d'acquérir... ceci, alors là je vous en montre un morceau, mais il faut savoir que ça fait à peu près 13 mètres de long. Hein. C'est-à-dire, c'est un espèce de long rouleau transparent
qui montre un panorama, mais c'est un peu comme la Torah, si vous voulez, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on déroule d'un côté, on reroule de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Et donc, ce n'est pas la même technique que Gainsborough, hein, mais c'est un peu équivalent. C'est-à-dire qu'on met des feuilles les unes à côté des autres, on les colle, hein, on peint dessus, c'est transparent, et on fait passer devant un écran en tournant. C'est vraiment une technique très cinématographique, hein, avant l'heure, hein. Et alors, évidemment, le problème, c'est que, puisque quand vous mettez des feuilles les unes à côté des autres, la partie collée se voit un peu, vous faites un arbre, et l'arbre, il vous cache la jointure entre les feuilles. D'accord ? Donc, vous avez des arbres toujours au même endroit, mais ça permet de faire passer la chose. Hein ? Donc, ça, c'est très intéressant. Ça fait donc partie de ces 13 mètres acquis récemment par le musée du Louvre. C'est rarissime, ce genre de choses, hein, parce que souvent, ça n'a pas été conservé, c'est fragile. Et voilà, et Carmontel a fait ça. Je vous montre ça pour vous montrer comment c'est un peu dans l'idée du temps aussi. Hein. Mais on est à l'époque des Lumières, la question des inventions, des bizarreries, de l'étrangeté, de la projection, tout ça, ça intéresse beaucoup. Carmontel le montre. OK ?
Oui ?
Oui,
oui.
Alors, on continue. Portrait.
Inachevé. Inachevé ou ébauche.
Ce sont effectivement les deux filles de Gainsborough. Vous vous rappelez tout à l'heure, mine de rien, je vous ai dit qu'il avait eu deux filles. Les voilà. Elles se ressemblent. Donc, portrait des deux filles de Thomas Gainsborough. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce tableau?
Assez moderne.
Assez moderne. Ouais. Pourquoi assez moderne? Qu'est-ce qui permet de dire c'est un tableau entre guillemets assez moderne?
Le côté.
Les touches de peinture. Les vêtements, les touches de peinture.
L'expression.
La pose.
La manière de poser. Qui n'est pas vraiment une pose. Je pense à cette pose. Comment est-ce qu'on pourrait la caractériser? Décontracté, oui.
Mais il y a un côté inachevé en bas.
Ah, il y a un côté inachevé. Donc,
ce qui renforce la modernité.
Pardon.
Une volonté de peindre les visages, de rester oui. Dans le flou.
Oui, parce que effectivement, les visages sont assez aboutis. Le reste est beaucoup plus esquissé, hein. Hein. Plus fondu, ouais.
Les vêtements,
ouais.
Ça ajoute caractère moderne.
Voilà. Donc, ce caractère moderne, il est peut-être dû à deux choses, effectivement. Hein. D'une part, au sujet lui-même, à la pose, ces deux jeunes filles qui, vraiment, ne posent pas. On n'est pas dans les conversation pieces du départ. Hein. Vous avez monsieur, madame, qui sont un peu raides comme ça, et qui posent dans la nature. Là, on est dans quelque chose, alors, qui est tout à fait pris sur le vif. Hein. Les deux filles, en train de rigoler, et paf, leur père les représente. Donc ça, il y en a fait une dimension très, entre guillemets, moderne. Mais l'autre dimension moderne, c'est peut-être effectivement ce contraste entre le fini des visages et l'infini du pourtour. Hein. Tiens, entre parenthèses.
Il y a un chat.
Eh ben voilà, il y a un chat.
Oui, mais il n'y a pas d'épaisseur, cependant,
non.
Entre les deux sœurs.
Absolument.
Et le chat est...
Je ne sais pas comment le chat, il arrive à tenir, mais il y a un chat. Vous l'avez vu, le chat?
Oui, oui.
C'est pas ce
Alors, la position du bras est un peu bizarre, quand même.
Oui, il y a une drôle de position du bras. Tout ça a un espèce de statut non d'un relatif inachèvement. Hein. Et pourtant, c'est un tableau terminé. Oui, c'est une esquisse de chat. Hein. Mais tout le tableau est un peu entre l'esquisse et la pas esquisse, quoi. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. C'est bien ce qui fait de ce tableau quelque chose de très singulier. Pardon. Il y a une dimension vivante, c'est vrai. Pardon. Un chat derrière la grande fille.
Entre les deux bras.
Je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt des plantes. Hein. Avec un nez blanc.
Un museau blanc.
Un museau blanc. Non, je ne crois pas. Par contre, il y en a un entre les deux enfants.
Ah oui,
mais les mains, elles sont
achevées? Non, non.
Ben, plus ou moins, elles sont traitées rapidement. Il y a ce que vous disiez tout à l'heure, autant les visages sont finis, autant le reste est volontairement laissé dans une sorte d'inachèvement. Alors, l'idée c'est quoi d'ailleurs? C'est quoi l'idée?
Un moment de vie.
Un moment de vie.
Mais peut-être ouais. Que les filles aussi en avaient assez de poser.
Peut-être que les filles... Mais leur père aurait pu terminer ça dans son atelier tranquille. Hein. Donc, il y a un côté, quand vous dites un instant de vie, c'est le côté instantané, justement. Hein. Ouais.
Elles ont l'air anxieuses aussi, il y a un côté
anxieuses. Oh, moi je ne sens pas anxieuses. Elles sont
sérieuses.
Oui, sérieuses. Anxieuses, je ne sais pas. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Hein.
L'instantané rejoint l'aspect esquisse.
Oui, le côté instantané rejoint l'aspect esquisse. Si c'est esquissé, c'est précisément ce que c'est instantané. Vous savez, une photo prise un peu vite, chac, c'est un peu flou, on n'est pas très clair. Bah, un tableau fait un peu vite, parce qu'instantané, c'est un peu flou aussi, quoi. Donc il y a cette dimension-là. Ouais. Donc une dimension instantanée, puis qu'est-ce que ce côté non vraiment achevé, mais volontairement non achevé, qui suggère cette idée d'instantanéité, c'est pas chichi, si vous voulez. C'est pas comme les tableaux du départ, merveilleux, hein, mais qui sont bien finis, bien terminés, pour que M. et Mme Andrews aient leur tableau chez eux, il fallait pas que les bottes de foin soient non terminées. Il y avait intérêt à ce que ce soit fini, si vous voulez. Hein. Bon.
Et ça reste un tableau intime.
Voilà, il y a une dimension d'intimité. Il y a une dimension d'intimité, c'est-à-dire qu'on est là dans la famille de l'artiste, hein, et donc cette dimension d'intimité, elle joue certainement dans la réalisation du tableau, qui n'est donc pas fini, achevé, c'est pas une image impeccable, c'est un instantané intime, donc qui est comme ça, fait prestement. Il y a peut-être aussi une autre idée quand même.
Elles sont rousses. Et les couleurs accentuent
cette rousseur. Oui. Non, mais ce sont des jeunes filles. Ce sont des jeunes filles. Leur vie n'est pas achevée.
Alors, des jeunes filles, leur vie n'est pas achevée. Donc, ah oui, c'est ça. C'est-à-dire le côté, c'est en devenir. Hein. Voilà. Alors, oui, j'y avais pas pensé, mais c'est peut-être une chose qu'on peut envisager dans un tableau tel que celui-ci. Le côté, c'est pas achevé. Leur vie n'est pas achevée, donc elles non plus. Hein. Pourquoi pas?
C'est peut-être un tableau très intime, mais peut-être même que dans l'atelier, pour les visiteurs, ça prouvait la qualité du travail de Gainsborough pour les visages et pour la qualité du portrait.
Oui, alors, effectivement, c'est-à-dire que ce genre de tableau, finalement, montre tout le brio du peintre. Hein. Finalement, ça montre la palette du bonhomme. Quoi. Il est capable de vous trousser des figures en 3 minutes avec 3 coups de pinceau. Il vous fait un chat, des bustes, des personnages, mais en même temps, il est capable de vous chiader, c'est un mot qu'on utilise en peinture, hein, les visages de ses filles. Hein. Donc, effectivement, il y a là une sorte à la fois de démonstration du brio du peintre et puis en même temps du plaisir du peintre. Hein. Un peintre, il aime terminer, que ce soit très bien, mais il aime aussi faire 3 coups comme ça. Et puis que les 3 coups emportent le morceau aussi. Hein. Donc, on a là effectivement des tableaux qui, d'ailleurs, de ce fait-là, ressortissent avec cette idée d'intimité. Hein. Le peintre, il est capable de montrer un peu sa capacité picturale, il est capable de finir ou d'esquisser, hein. Non seulement il montre dans ce tableau ses facultés, hein, son génie de peintre, hein, mais en même temps, tout ce qu'on a vu par ailleurs, hein, cette espèce d'intimité, de non-terminé, qui montre, encore une fois, cette espèce de plaisir de la peinture. La peinture, elle est finie, elle est terminée, on passe des heures dessus, ou bien elle n'est qu'esquissée. Ben, finalement, la peinture, c'est toujours une interrogation entre peindre 30 secondes quelque chose qui ressemble à quelque chose déjà, ou mettre des heures à peaufiner un décor. Et là, vraiment, il montre les deux. Une sorte de plaisir de la peinture et de démonstration de la peinture.
Est-ce qu'il les vendait, ces tableaux-là ?
Alors, certains oui, d'autres non. Effectivement, il y a une dimension d'intimité. Le problème, c'est que vous allez voir, vous allez le voir, c'est une question effectivement intéressante. Mais vous allez voir, on va y répondre en voyant les autres. Ça, c'est quoi ?
C'est un
autoportrait, absolument. Hein. Bon, vous voyez que c'est la même chose, mais on pourrait dire la même chose que pour ses filles. Hein.
Absolument.
Hein. C'est-à-dire le visage est terminé, le reste est esquissé. C'est donc de l'intimité, c'est donc de l'instantané, c'est donc du brio pour le visage, de l'esquisse pour le reste. On voit bien la technique incroyable du peintre, quoi. Il a dû faire ça en 3 minutes, hein. Et ça, il a mis évidemment plus de temps, parce que voilà.
Ça tient aussi du dessin.
Ça tient aussi du dessin, absolument. Il y a une dimension graphique, c'est vrai.
Encore plus dans l'autre, parce que
ouais.
Le dessin du chat...
Oui, oui.
À peine... Un petit trait donne... toute la main.
C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai qu'au premier plan, l'arbre, c'est monochrome. Hein. Ça, c'est une sorte de dessin, finalement. C'est des traits. Hein. Puis c'est des bouts de pinceau qui passaient en vitesse. Hein. Ils vous troussent ça en 5 minutes. Hein. Ok. Très bon tableau. Hein. Ça, je vous le montre, parce que ça fait partie du même genre de tableau. Alors ça, je vous le dis parce que ça, vous ne pouvez pas le deviner. Ce portrait, il représente un garçon qui s'appelle Gainsborough Dupont. Et c'était le fils de la sœur de Gainsborough. Hein. Mademoiselle Gainsborough avait épousé Monsieur Dupont, peut-être d'origine française. Hein. Et donc Gainsborough Dupont, qui est né de cette union, est ici portraituré par son oncle. Notez que Gainsborough Dupont, on l'appelle comme ça en Angleterre, j'ai même pas réussi à trouver son prénom, ça m'agace d'ailleurs, parce qu'il en avait un, mais je sais pas, on trouve jamais son prénom, les Anglais l'appellent Gainsborough Dupont, on sait pas le prénom, et donc Gainsborough Dupont a été le seul personnage dans l'atelier de Gainsborough, parce que Gainsborough travaillait seul, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes du temps, hein, que le fois ils ont 10-15 personnes autour d'eux pour faire les peintures, pour préparer les toiles, pour les aider à réaliser les vêtements, etc. Lui, non, lui, il travaillait seul. Il n'a eu qu'une personne, une grande partie de son temps dans son atelier, c'est Gainsborough Dupont, dont vous voyez ici le portrait. Avec ce même côté, fini du visage, pas fini du... Enfin bref, on en a parlé. C'est un membre de l'intimité du peintre, à nouveau. Ouais, c'est un beau tableau, hein. Je voulais vous montrer aussi ce tableau qui représente M. Vestris, qui est un danseur français qui s'est beaucoup illustré à Londres à cette période. Et justement, par rapport à ce qu'on disait avant, qu'est-ce que vous pourriez dire d'un tableau tel que celui-ci ?
Il est vraiment fini.
Oh, est-il vraiment si unique, ça ?
Pas tout à fait. Pas tout à fait.
Alors, le visage est effectivement très fini. Le reste, quand vous regardez de près, alors bien sûr, c'est un peu plus terminé que ce qu'on a vu précédemment, mais c'est quand même très esquissé.
C'est moins léché. C'est pas aussi léché que le premier balade.
Ben voilà, on n'est pas dans le côté effectivement léché de certains tableaux auxquels Gainsborough nous a habitués. Hein. Alors, ok, on n'est pas là dans cette espèce de graphisme radical hein, qu'on a vu dans l'autoportrait ou dans le portrait des filles. Hein. Mais quand même, on est dans quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, fini. Et Gainsborough aimait beaucoup ça. Mais ça choquait beaucoup. En fait, à l'époque, beaucoup de gens trouvaient que, franchement, c'était torché, quoi. Hein. C'était pas fini, quoi. Hein. On était là dans des œuvres qui n'étaient pas achevées, pas finies. Il n'y avait pas de lisse, de poli, n'est-ce pas ? Pas de glacis pour... Parce que quand... Alors, ça se voit peut-être moins de loin que de près, mais tout ça, on voit les touches de pinceau, quoi. Ça, c'est vu en 2 minutes, quoi. Hein. Donc, il y a un côté pas fini, torché, qui est quelque chose qui étonne, hein, qui n'est pas trop dans l'esprit du temps, en tout cas chez les artistes qui comptent. Hein. Oui. Je voulais vous montrer ce tableau qui a à voir avec les précédents, mais peut-être pas seulement. Qu'est-ce que vous pourriez dire dans ce tableau ?
C'est étonnant parce qu'on dirait qu'elle sort d'un tableau.
Ouais. Oui, oui. Oui, oui. C'est un peu un tableau dans le tableau. Hein.
Ouais.
Ouais. Ouais, ouais. Laquelle est l'élément d'ailleurs qui fait que c'est il y a un passage entre nous et elle. Le drapé, oui. Le drapé qui sort de cette sorte d'oculus et qui fait que bon, ça nous permet de comprendre ce qui se passe. Hein. Alors là, vous voyez, c'est une de ses filles, hein, c'est sa plus jeune fille, hein, Margaret, qui a grandi depuis tout à l'heure. Hein. Mais on retrouve toujours hein, ce même côté, terminé là, mais pas trop là. Enfin, la draperie non plus. Hein. Or, c'est rougeau, d'accord, hein, mais vous avez le même côté graphique que tout à l'heure. Ouais. Alors, ce que je voulais quand même vous dire, c'est que ce goût pour ce que les Italiens appellent le fa presto, c'est-à-dire la réalisation rapide, hein, le brio, quoi. Hein, c'est quelque chose qui est quand même très à la mode à cette période. Hein. On le retrouve en France. Hein. Certains de vous qui se rappellent peut-être de certains statues l'année dernière, notamment celui sur le portrait, se rappelleront peut-être qu'on a vu par exemple des portraits de David comme ça, hein, notamment le fond. Hein. Mais pas seulement. Quelquefois, il y a la tête, mais le reste est très esquissé. Hein. Donc c'est quelque chose qui est quand même dans l'air du temps, dans l'Europe du temps, pour toutes les raisons qu'on a dit. L'instantanéité, on ne veut pas figer le tableau, il y a un côté instantané. L'intimité, même si on n'est pas intime avec le personnage, le bon trait pas terminé, c'est une manière d'avoir une intimité avec lui. Et puis, ce que vous disiez aussi, c'est une sorte de catalogue des capacités de l'artiste. On montre comment il est capable de finaliser quelque chose, de le peaufiner, ou simplement de l'esquisser. Et je vous ai montré ça, je vous ai amené ça. Ça, c'est un tableau d'un artiste appelé Johann Zoffany, qui est un artiste allemand du XVIIIe siècle, qui représente Gainsborough. Hein. Et c'est amusant parce qu'on voit comment, le représentant, il le représente de cette manière non terminée en question. Vous voyez que c'est quelque chose que l'on voit volontiers. Alors, thème suivant. Qu'est-ce que vous auriez à dire avec ça ?
Là, c'est bien fini.
Là, c'est bien. Ouais, c'est assez fini. Quand vous regardez de près, pas tant que ça. Hein. Tiens, de loin, on se dit, ouais, c'est... Mais quand vous regardez de près, il y a quand même, même dans la robe, hein, il y a quand même une dimension comme de réalisation rapide, hein, qui est quand même la patte de Gainsborough. Hein. C'est vraiment un artiste, ça ne se voit pas forcément de loin, c'est plus de près quand on voit les tableaux, où on marque que... C'est un peu d'ailleurs que... on a cette, vous savez, c'est certains impressionnistes, on a le même genre de choses. Vous regardez un Manet de loin, vous dites, ouais, bah ok. Vous le regardez de près, vous dites, oh, bah, zut, alors vous voyez la touche, quoi. Et bien là, c'est pareil, sauf que c'est au XVIIIe siècle. Hein.
Oui, c'est ça, c'est ce qui fait la modernité.
Voilà, c'est ce qui fait l'extraordinaire modernité. Alors, au-delà de cette touche-là, qui est plus chiadée, mais qui en même temps reste comme ça assez virevoltante. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur un portrait tel que celui-ci ?
C'est la pose,
qui est
banale.
Que vous qualifieriez de quoi ?
Précieuse,
abandonnée, languissante. Pardon ?
Faussement
abandonnée, un peu affectée, un rien d'affectation. Hein. Oui, une longueur un peu calculée, mais quand même assez naturelle, un tout petit peu affectée. Ouais. Vous auriez d'autres choses à dire pour caractériser un tel tableau ? Un peu soyeux.
Derrière le rideau.
Oui. Donc il se passe des choses autour. Donc l'entourage de la figure est important. Oui. L'entourage seulement ?
La pose,
oui. Oui, alors c'est une artiste peut-être, ou du moins si elle n'est pas artiste. Mais elle veut faire quoi ? Ou du moins elle taquine la muse de la musique. Hein. Hein. C'est une femme très convenable, une femme convenable doit savoir jouer de la musique, nous sommes bien d'accord. Hein. Donc elle a je ne sais quelle mandoline qui signale la chose. Hein. Alors regardons un peu d'autres tableaux du même genre. Alors là, vous voyez que c'est un peu pareil. On a des choses au niveau de la touche qui sont... C'est un tableau qui est plus terminé que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais qui reste quand même un peu rapide au niveau de l'exécution, volontairement.
C'est la main d'un...
Oui, c'est les deux filles. À nouveau, les deux filles de l'artiste. Voilà, alors il y a du mouvement. Dans ce tableau, il y a du mouvement. Ce mouvement-là, qu'est-ce qu'il vous dit ?
Pardon.
Elle court après un papillon. Elle court après un papillon. Donc c'est les deux filles de l'artiste qui vont à la chasse au papillon. Ah oui, qui bouge ? Oui, le vêtement bouge, quoi. Elle court, quoi. Hein, donc le vêtement, il suit. Hein. Donc vous avez bien noté cette dimension très dynamique. On est dans le mouvement, hein, dans sa peau qui représente effectivement les deux filles de l'artiste chassant le papillon. Lui, c'est moins dynamique.
Une broderie au porcelain.
C'est pareil, la pose est songeuse,
voilà. Bon, il y a des choses qui nous rappellent des choses qu'on a vues avant, par exemple. Qu'est-ce qui nous rappelle des éléments qu'on a pu voir dans des tableaux antérieurs? Oui, mais justement, qu'est-ce qui, dans le premier couple, a de commun avec ça? La présence du paysage. On a un portrait dans un paysage. Hein. Donc, on voit bien que c'est une sorte de leitmotiv. Et quel est l'intérêt de présenter un personnage dans un paysage?
C'était une convention de l'époque, je pense.
Oui. Est-ce qu'elle est si conventionnelle que ça, cette convention? Prenez le 17e, c'est-à-dire quelques décennies auparavant.
Oui, en appartement.
Voilà. Là, on sort. Donc, c'est une convention, mais qui est nouvelle.
Oui.
Hein?
Oui.
Donc,
le paysage sur le vif, à ce moment-là.
Le paysage ?
Et peint sur le vif.
Il peut être effectivement peint en partie sur le vif. Par exemple, vous pensez, là, il y a du lierre que Gainsborough a arraché du lierre et puis l'a amené dans son atelier et a peint le lierre directement. Je ne suis pas sûr qu'il soit allé vers le lierre, je pense qu'il a arraché du lierre pour le peindre dans l'atelier. Oui, donc on s'inspire du... C'est le côté naturaliste qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Mais quel est l'intérêt, encore, de peindre un personnage dans la nature?
Oh, mais il est peut-être propriétaire de...
Alors, c'est peut-être une manière de montrer sa propriété quelque part par là. Oui, pardon. Oui, il y a peut-être aussi d'autres raisons.
Je ne sais pas, c'est sans rapport avec le personnage lui-même.
C'est-à-dire
Sa fonction.
Oui.
C'est
que ça peut permettre, effectivement, la nature peut permettre de s'accorder au personnage. Entre guillemets, en quelque sorte, il y a une sorte d'équilibre entre la nature et le personnage. Hein. La nature peut nous montrer, nous dire des choses sur le personnage. De quelle manière, par exemple? Là, par exemple, le personnage, si vous voyez ce qu'il y a autour, c'est quoi?
Rocher, mais il regarde au loin.
Il regarde au loin. Il est... Son regard, c'est quel genre de regard? Inquiet?
Non.
Assuré?
Comme la pierre,
quelque part. Hein. Il y a une sorte de sérénité assurée.
Il regarde la ligne de débauche.
Quelque part, il regarde l'horizon. Immuable. Vous avez parlé des rochers. Moi, il y a un élément sur les rochers qui me parle.
C'est pas un arbre mort?
Non. Oh, il y a peut-être un... Non, je crois que c'est plutôt un rocher.
C'est le lierre.
Le lierre.
Symbolique?
Non. Le lierre, c'est quoi? Vous savez qu'il y a une ville en France qui a comme symbole le lierre. Hein, oui, surtout. Voilà, c'est exactement. Hein. La ville d'Amiens comme symbole de lierre, et vous venez de dire sa devise. Hein. Le lierre, ça s'attache, et quand il est attaché, on l'enlève, il revient. On ne peut pas le détacher. Enfin, le lierre, vous en avez tous le clair. Ça s'accroche. On ne peut pas l'enlever.
Une horreur.
Pardon ?
Une horreur.
Une horreur. Hein. Donc, je veux dire, ce n'est pas un hasard. Hein. Alors, ce bonhomme, ça peut être qui ? Il peut avoir quoi comme fonction ? Dans cette idée que le paysage peut suggérer des choses du personnage. Le personnage, c'est qui?
Il est du coin.
Alors, sans doute du coin.
Ce qui est frappant, c'est son visage, très sérieux.
Oui.
Et puis, une certaine nonchalance dans la façon de mettre
si
les boutons, par exemple.
Oui, oui. Ah, ça, c'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, vous avez raison. Hein. Cette espèce de nonchalance sophistiquée. C'est sophistiqué, nonchalant. Enfin, il a une pose très naturelle, très cool, là on peut le dire, on est en Angleterre. Hein. Et en même temps, c'est quelqu'un de très sophistiqué. Cette dualité qu'on a vue dans les Conversation Pieces, on les retrouve là. Mais le paysage, et notamment le lierre, peut nous faire penser à ce qu'est ce personnage. C'est un laboureur?
Non.
C'est un bourreau?
Non.
C'est le roi d'Angleterre?
Non.
C'est le seigneur.
Peut-être. On est au 18e, on n'est plus au Moyen-Âge. Hein. Alors c'est peut-être quelqu'un qui dirige une propriété, c'est possible, hein, qui a cette espèce de certitude. Mais il peut avoir un métier aussi.
Régisseur.
Régisseur. Il est un peu trop bien mis pour être régisseur, à mon avis. Ce monsieur, c'est... C'est un avocat. Justice. La justice. C'est de la pierre, la justice. Hein. C'est le lierre. On n'arrache pas la justice. Elle est une et indivisible. Hein. Pas question d'arracher la justice. Hein. La justice, c'est du solide, c'est du sûr. Hein. On ne va pas mettre trois pâquerettes. Hein. On met du lierre. Et là, il n'est pas dans un paysage, cette fois. Hein.
En bas, il tient un paysage.
Il tient, voilà. Ouais. Il y en a même deux. Un tableau là, deux tableaux là. Ben, c'est la même chose que jusque-là. C'est-à-dire que dans ce portrait, l'entourage peut dire des choses sur ce personnage. Qu'est-ce qu'il peut être, ce personnage? Pardon? Ça peut être un collectionneur, ça peut être un marchand de tableaux.
Mais un peintre lui-même?
Un directeur de galerie.
Un peintre lui-même?
Un peintre lui-même. Alors, vous avez touché juste dans une des identifications. C'est plutôt un marchand et célèbre. Sotheby's, vous connaissez la boîte qui existe aujourd'hui. Et bien voilà, monsieur Sotheby's.
Mais non, Christie's.
Pardon, Christie's, pardon. C'est la Christie's Sotheby's. Je les confonds toujours.
Oula.
Oui. C'est un musicien. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un musicien? Condition. Vous avez une idée d'un musicien qui a vécu à Londres au 18e? Ça pourrait, mais c'est pas. Non. Non. C'est quelqu'un qui n'est pas anglais. C'est pas un mot. Jean Chrétien Bach. Je ne me trompe pas cette fois, non, c'est bien ça. Jean Chrétien Bach, hein, un des fils de Bach. Donc, évidemment, vous voyez comment le paysage, mais également l'attribut, fait partie des éléments importants pour dire le personnage. Et là, une actrice ou bien
une danseuse.
C'est une danseuse. C'est Giovanna Bacchelli. Hein, dans le rôle des Allemands surpris, qui a fait la une de Londres en ce milieu du deuxième moitié du 18e. Hein. On l'a facile. Hein. C'est un soldat, c'est un officier. Facile. Hein. Mais voyez encore l'importance hein, du paysage par rapport au personnage. Hein.
Il va partir à la guerre.
Pardon, bateau de guerre, oui. Il est un peu mélancolique. Et le chien, bien sûr. Très important, le chien. Pas mal, hein. Grand peintre, quand même. Hein. Très grand peintre, hein. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Ouais, magnifique. Hein. Ah, c'est superbe. Hein. Mais vous avez remarqué toujours cette espèce de désinvolture, un peu affectée, mais naturelle, et en même temps très chic. Hein. Bon, elle a mis son tablier de jardin. Bon, c'est pas un petit tablier de jardin en grosse bure. Hein. Enfin voilà, hein, on est là devant cette... cette aristocratie anglaise que Gainsborough sait absolument pointer hein, dans cette entre-deux que vous avez bien senti, hein, entre le naturel un peu sauvage et la sophistication un rien altière.
Hein. Mais en fait, ça rend le dialogue entre ce paysage un peu sauvage et puis la sophistication de la personne, ça renforce les deux,
c'est
les
ça.
Deux aspects.
Absolument.
Hein, le dialogue.
Absolument. Ah oui. Alors, le paysage est vraiment là, dans cette, avec cette dimension, c'est vrai.
Mais la couleur aussi, qui est très claire du personnage, ouais. Par rapport au, à l'environnement, ouais. Qui est très sombre, et ouais. Finalement, on transcende les difficultés.
Oui, oui, oui. Ouais. Ah, le paysage est là, pour, il joue un rôle. Là, le rôle, c'est aussi de contraster et de dire des choses. Bah, dans l'ordre, dans exactement l'inverse, hein, ben ça c'est l'autre tableau de Gainsborough du Louvre. Hein. Je vous le montre parce qu'encore une fois, on n'a pas tant de tableaux anglais en France, autant connaître à peu près ceux que l'on a. Vous voyez exactement la même chose, mais là cette fois dans le noir. C'est gonflé quand même. Hein. Et alors, C'est là qu'on voit bien que le pourtour, le paysage, ce qui se passe autour, dit des choses sur l'œuvre. Il n'a pas fait dans le noir pour faire dans le noir. Il y a aussi une dimension de mise en place de la figure, de mise en scène. Oh, elle esquisse, je ne sais pas si vous connaissez ce tableau, un grand tableau d'ailleurs, hein. Elle esquisse un sourire, c'est le soir, elle est dans un très bel habit, hein. Elle est peut-être partie à deux pas parce qu'une fête est donnée dans sa propriété, mais elle divague un instant dans les allées du château avant de revenir pour jouer au jaquet. Voilà. Donc il y a cette dimension-là, hein. Elle fait quelques pas dans le jardin, elle est très très bien habillée, mais c'est la nuit. Voilà, donc c'est bien ce contraste entre un habit presque d'apparat, n'est-ce pas, et la nuit avec la lune, hein, voilà évidemment du spectaculaire. Ça, vous le connaissez, celui-là, hein, tableau célèbre. Hein. Là, vous voyez, avec toujours cette idée, hein, du paysage et du personnage. Vous avez vu la fièvre. On pourrait dire que là aussi, c'est un tableau romantique. Hein. Vous savez, le jeune héros romantique, hein, toujours un peu fiévreux, dont on a l'impression qu'il va calancher dans la demi-heure. Hein. C'est un peu cette idée, sauf que là, c'est pas romantique, puisque c'est avant le romantisme. Mais il y a déjà cette idée-là. Et voyez comment le fond, hein, vient accompagner ce personnage, qui a un peu d'assurance, malgré tout, hein, malgré le crépuscule du loin. Et par parenthèse, vous revoyez là ce très très beau vêtement, mais quand on le regarde de près, c'est brossé très vite. Hein. De loin, ça paraît impec, de près, c'est du Fabresco. Hein.
On a une idée, on sait comment il faisait, je veux dire, est-ce que, par exemple, les fonds, les paysages étaient faits avant, et est-ce qu'il proposait, par exemple, au personnage qu'il allait portraiturer, le fond sur lequel il allait les peindre?
Honnêtement, je ne le sais pas, mais je ne pense pas. Je pense que, peut-être disait-il quand même, écoutez, voilà, moi je vais... Après tout, il était payé pour ça. Hein. Donc voilà, je pense qu'on lui disait peut-être, écoutez, moi je préférerais... mais peut-être aussi proposait-il. Hein. C'est un personnage qui est assez couru. Hein. C'est-à-dire que l'aristocratie du temps... assez envie d'avoir un portrait d'un Gainsborough. Hein. Dans ces périodes-là, vers la deuxième partie de sa vie, hein, c'est pas tellement lui qui court derrière les commandes, c'est les commandes qui viennent à lui. Hein. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il n'a pas trop à transiger. Je pense que c'est beaucoup lui qui choisit. Alors le commanditaire a toujours des choses à dire. Hein. Voilà, je vous en demande encore quelques-uns, simplement pour continuer à vous montrer à quel point le paysage qui est autour compte. Très visible là-dedans. Hein. Ça, c'est un tableau qui date de 1785. On pourrait voir un tableau français du 19e siècle. Hein. Vous vous rappelez du portrait de Madame Récamier ou de tel portrait de Prudhon, etc. Hein. On est vraiment dans le même genre d'idée. C'est une alliance du paysage. En plus, là, c'est la femme d'un poète, hein, Sheridan. Mais une alliance du paysage et de la personne. Hein. Ce côté un peu mélancolique. Finalement, on va tout à fait avec ce paysage qu'il est aussi. Oui, absolument. Absolument. Voilà, alors à côté de ça, il peut y avoir, vous voyez, une assurance qui est imposée, hein, cette fable-là qui est bien, bien droit dans ses bottes, comme diraient d'autres, hein, et qui regarde là, dans elle, hein, voilà, devant une draperie très, très, très opulente, avec son beau vêtement. Enfin, l'entourage, le paysage, hein, mais également les attributs, les vêtements. Gainsborough, qui faisait ses tableaux lui-même, hein, dans beaucoup d'ateliers à cette époque, il y a des aides qui font les vêtements. Le maître, il fait les carnations. Hein. Lui, il faisait tout, sauf Gainsborough Dupont, qui de temps en temps l'aidait un peu. Ok. Mais en gros, Gainsborough, il fait tout. Parce que pour lui, le vêtement est capital. Le vêtement, ce n'est pas un tutelement secondaire qui met en valeur. C'est un élément qui dit le personnage. Donc, le vêtement, les attributs, le fond, tout ça, pour lui, ce n'est pas des éléments secondaires d'un portrait. C'est des éléments qui font le portrait. Donc, ce qui est autour du portrait, c'est capital. Alors, je voudrais qu'on regarde rapidement, parce que l'heure va bientôt sonner, la dernière série. Tu iras rapidement, puis après, on verra quelques œuvres d'artistes un peu similaires. Ça vous dit quoi? Ça fait penser à la parabole du fils prodigue. Oui. Sauf que c'est une fille, mais bon. La fille prodigue.
Oui. Regarde les petits cochons.
Oui, c'est une petite fille qui a un petit cochon. Qu'est-ce que ça vous dit par rapport au tableau antérieur ? Scène campagnarde. Un peu aménagé, mais pas tant que ça. Regardez le costume de la petite fille.
Elle est pieds nus.
Elle est pieds nus. Elle a son costume déchiré sur l'épaule. C'est vraiment une petite paysanne. Donc c'est une jeune fille qui garde des cochons. Voilà. Oui, bah oui, c'est pas toujours rigolo de garder des cochons. Hein. Pas toujours rigolo. Hein. Gardez ça. Qu'est-ce que le regard sur ce tableau vous dit quand vous mettez à côté telle élégante jeune femme avec un chien qu'on a vu sur le tableau antérieur? Voilà, c'est-à-dire que là on est vraiment dans quelque chose qui pourrait ressortir de ce qu'on appellerait une peinture sociale. Hein. La petite fille, vous avez vu l'état de son vêtement? Elle a une cruche à moitié pétée, elle est pieds nus, c'est pas la joie si vous voulez. Hein. Pardon? Oui, le chien est un peu comme elle. Voilà. Tout ça est un peu tristoun. Hein. Donc, il y a en effet une dimension, une sorte de regard qu'on pourrait qualifier de regard social. Alors, il y a par rapport à Gainsborough les tenants, en effet, d'un regard social, une sorte de critique sociale. Il y a ceux qui veulent plutôt voir une espèce de volonté de jeter un regard sur le pittoresque rustique. Moi, je trouve que c'est un pittoresque rustique quand même assez contondant. Hein. Or, là, c'est plus pittoresque, on est d'accord. Hein. Mais enfin, les deux précédents, ils sont quand même assez forts, hein, dans le sens rudesse de la condition paysanne. Hein. Il y a une fermière qui traîne à l'arrière. Ben oui, il faut éviter les poux. Hein. Ouais, ouais. Il y a une dimension greusienne, effectivement. Hein. C'est une dimension... comment dire, la joliesse morale de ces paysans, n'est-ce pas, qui travaillent dur, mais qui en même temps sont dans la vraie vie. Ils vont chercher du lait, le lait c'est ce qui nourrit. Certes, ils ne sont pas riches, mais c'est eux qui ont la vraie richesse, parce qu'ils ont une rectitude morale que n'ont pas ces aristocrates qui se gobergent dans leurs hôtels particuliers. Donc effectivement, il y a une dimension greusienne, hein, cette célébration de d'une relative pauvreté. Ouais. Là, idem, hein. Vous avez une famille de paysans. Ouais, oui, oui, oui. Mais je ne sais pas si c'est la mère ou une fille aînée. L'histoire ne le dit pas. Un peu, oui. Et ça? Qu'est-ce que vous voyez? Une famille qui bandit, effectivement. Là. Et qu'est-ce qui se passe devant? Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, en fait, c'est un tableau qui est une sorte de parabole en faveur de la charité, hein, qui s'appelle la charité assistant la détresse. Hein. Donc, vous voyez quand même que quand il fait des tableaux comme ça, Gainsborough, qui est le peintre des belles aristocrates qui, à bas, sortent le beau chapeau et leur joli fichu, est quand même quelqu'un qui s'intéresse au revers de la médaille. Hein. Autrement, on ne peint pas ça. Hein. Surtout pas avec ce titre, d'ailleurs, qui est le titre ancien. Hein. Donc, il y a quand même cette dimension-là. Alors, qui est dans l'air du temps? Vous avez parlé de Greuze, effectivement. Bon, de la même manière, voilà, un cottage, n'est-ce pas? On n'a pas l'impression que ça... on est loin des beaux châteaux qu'on n'a pas vus, d'ailleurs, parce qu'en général, ils ne représentent pas, mais qu'on devine, non loin des Conversation Pieces de tout à l'heure. Ça, c'est quoi, d'ailleurs? Alors, c'est pas historique. Alors, ça pourrait être ça, mais c'est autre chose. Oui, c'est un campement de bohémiens. C'est un campement de bohémiens. Donc vous voyez qu'il y a un intérêt pour ces populations un peu parallèles, si vous voulez, marginales.
Il fait ça en fin de vie?
Oui, en l'occurrence, oui, il y a des tableaux comme ça qui sont plutôt vers la fin de sa carrière. Alors, je voulais également... Oui, c'est un loup, le Poméranie et son petit, ça. Alors, je voulais vous montrer ça et ça, d'ailleurs, aussi. C'est pas mignon, ça? Parce que... bon, décidément, le chien en Angleterre, c'est sacré. On rigole pas avec les chiens. c'est clair. Hein. En France, on a des peintres de chiens, je pense à Oudry, par exemple. Hein. Ok, Oudry montre, il portraiture les chiennes de Louis XV, très bien. Hein. Mais en Angleterre, le chien, c'est un membre de la famille, si vous voulez. Hein. Voilà, et vraiment, on sent une sorte d'intimité canine hein, qui n'a pas d'équivalent dans la peinture française. Hein. Vraiment, le chien, c'est un membre de l'intimité du cercle familial. Ils sont présentés hein, comme nos aristocrates de tout à l'heure. Et avec cette intimité immédiate, cette instantanéité, et ça, c'est absolument british. Hein. Il n'y a que les Anglais pour faire ça. Ou si les Anglais, les Français le font, c'est parce qu'ils ont gardé les Anglais. Et puis, je voulais vous montrer ça, enfin. Eh bien, voilà, c'est mythologique.
La grande peinture.
Voilà. Alors, ben, on ne sait pas. Il a peut-être pris pour modèle, qui sait.
Hein?
C'est un tableau qui s'appelle Musidora, une sorte de muse plus ou moins inventée. Et en fait, c'est le seul tableau de ce type qu'on connaît chez Gainsborough. Ouais. Le seul nu, j'allais dire mythologique ou historique, si vous voulez. La seule peinture d'histoire qu'on lui connaît. On n'en connaît pas d'autres. Il a fait des paysages, il a fait des portraits, il a même fait ce qu'on pourrait appeler des scènes de genre. Hein. Mais de la peinture d'histoire, c'est le seul cas. Vous voyez, c'est pas son truc, quoi. Pas son affaire. Alors, pour terminer tout à fait, en deux minutes, je voulais vous montrer quelques œuvres d'autres artistes du temps, d'Angleterre, qui participent un peu de ce même chaudron-là. Ça, vous devez vous en rappeler, je vous l'ai dit l'année dernière. C'est qui, ça? Ouais, il y a un chien. Vous voyez que le chien, hein? Un peintre du 18e siècle anglais, qui s'appelle William Hogarth. Hein, hein, vous savez, on avait parlé l'année dernière, parce qu'en gros, le chien a la même tête que le maître, et le maître a la même tête que le chien. Hein. Parallélisme chien-maître. Autre artiste. Alors là, ça, c'est de la peinture peaufinée. Tiens, vous voyez la différence. Hein, hein. Là, c'est, alors, c'est magnifique. Hein, mais là, on est dans du léché de ses léchés. Hein, c'est pas le Fapresto de Gainsborough. Une idée d'auteur, Ramsay. Autre, donc, artiste de cette période. Vous voyez, là, vous êtes très, très proche de... Là, ça représente qui, à votre avis? C'est un peu à côté. C'est une actrice. C'est une actrice. Hein. Un peu comme, vous savez, on a vu une danseuse tout à l'heure. Là, c'est une actrice. C'est très à la mode, ce genre de portrait. C'est d'un peintre dont je vous ai montré une œuvre tout à l'heure, qui n'est pas Gainsborough.
Ah oui, le
Geoffrey. Vous voyez, celui qui avait fait le portrait Fapresto de Gainsborough. Hein. Mais vous voyez qu'on est vraiment dans le même chaudron. Hein. Vous voyez, c'est tout comme Steen, la fois dernière, nous montrait de manière très, je dirais, très symptomatique, hein, tout un pan de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, Gainsborough, nous montre tout un pan de la peinture anglaise du 18e. Hein. Je ne dis pas que ce sera que lui, la peinture anglaise du 18e, mais il est hyper représentatif, tout comme Steen, hein, pour la Hollande, de ce qu'est la peinture du 18e en Angleterre. C'est qui ça? Reynolds. Hein. Reynolds, qui est un peu l'alter ego de Gainsborough. Ils ne s'entendaient pas très bien. Mais c'est pourtant Reynolds qui est la Royal Academy a prononcé l'éloge funèbre de Gainsborough en disant qu'en gros c'était le plus grand peintre que la Terre ait connu. Très beau discours, très fair play. Vous reconnaissez le Fapresto de tout à l'heure, hein? On en a déjà parlé, hein? On retrouve vraiment tous les grands thèmes qu'on a eu tout à l'heure. Ça c'est George Romney. Là vous avez là la brochette des grands peintres anglais du 18e. Un dernier. C'est bon la peinture anglaise du 18e. Hein. Très très beau. Hein. On ne connaît pas ça en France, qu'on en a très peu. Donc on ignore. Alors ça fait penser à Reynolds, mais c'est Reburn. Ça commence pareil, mais ça finit pas pareil.
Le blanc et la légèreté de...
Ah, mais pour trouver cette alliance du paysage et du personnage, de cette manière rapide de travailler, hein, voilà, c'est beaucoup des choses qu'on a vues chez Gainsborough et qui décidément sont une sorte de permanence de la peinture anglaise du XVIIIe siècle.
Celui qui a inventé, entre guillemets, ce Fa Presto, là.
Oh, le Fa Presto, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, si j'ose dire. Après, il y a des peintres qui l'ont plus ou moins utilisé. Hein. Disons que Gainsborough est quelqu'un qui l'a beaucoup utilisé. Il y a des artistes qui l'ont beaucoup moins utilisé. Mais c'est quelque chose qui existe dès l'origine. Hein. On pourrait dire qu'à Lascaux, il y a déjà du Fa Presto. Hein. Mais voilà, après, les peintres le font plus ou moins. On a vu que Ramsay, ce n'était pas quelqu'un du Fa Presto. Hein. Alors que, c'est-à-dire cette manière rapide de faire, Prest. Hein. Alors que Gainsborough, oui. Eh bien, écoutez, voilà, l'heure a sonné, ben, un peu plus. Bravo à vous. Et à la semaine prochaine.